édition spéciale sur RFI. Juliette Rangeval.
Et bienvenue si vous nous rejoignez ici en direct d'Erevan, la capitale arménienne qui accueille aujourd'hui et demain le 17e sommet de la francophonie. Vous nous suivez, vous réagissez en direct sur les réseaux sociaux avec les hashtags, les mots-clés RFI Matin et Afrique Matin. Christophe Boisbouvier, fin connaisseur de ces sommets de la francophonie, est ici en studio. Bonjour Christophe.
Bonjour Juliette.
Vous avez l'habitude des sommets de la francophonie, Christophe. Pour l'Arménie, en revanche, c'est une grande première, un sommet de cette ampleur. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement de toute la planète francophone qui se retrouvent dans la capitale de cette petite république du Caucase. Alors depuis des mois, les Arméniens préparent l'événement malgré les remous politiques, les bouleversements, les bouillonnements, disent certains, pour que tout soit prêt aujourd'hui, comme l'a constaté notre envoyé spécial, Anastasia Becchio. On se prépare, mais ce n'est pas toujours facile de se mettre au français.
Bienvenue en Arménie.
Derrière son comptoir, dans son magasin où il vend des bijoux traditionnels, Akilès a griffonné quelques mots en français sur son cahier. Mais la conversation avec les visiteurs francophones est encore très limitée.
Merci.
C'est vraiment dommage, j'ai des clients qui parlent français, mais je n'arrive pas à communiquer avec eux. J'ai essayé de baragouiner quelque chose en anglais, mais ils n'ont rien compris.
Avant le coup de feu de midi, un serveur en pantalon et veste noire sirote un café froid accoudé au bar du restaurant. Ici, le personnel s'est préparé à l'arrivée de visiteurs francophones.
Je m'appelle André. Bonjour et au revoir.
J'ai oublié tout le reste. En fait, le français me plaît beaucoup. On a déjà eu des clients de pays africains et du monde arabe francophone, des Canadiens aussi. À chaque fois, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils me comprennent, et moi, je comprends tout ce qu'ils me disent. Pour l'Arménie, c'est un événement très important. Il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut avoir 100 amis que 100 roubles ».
Des amis francophones qui ne passent pas inaperçus. Avenue fermée pour le passage de cortèges officiels, voies neutralisées, circulation déviée. Erevan vit au rythme des embouteillages dont la rumeur monte jusqu'au bureau du vice-premier ministre chargé de l'organisation du sommet de la francophonie. Tigran Avinian a pris ses fonctions il y a 5 mois après les manifestations massives qui ont conduit Nicole Pachignan au pouvoir. Victoria Aydignan et son adjointe.
Quand le vice-premier ministre a été informé qu'il devait coordonner le dossier de la francophonie, pendant une semaine, on était un peu perdus à essayer de comprendre ce qui se passait, ce qui avait déjà été fait, ce qu'il restait à faire. Heureusement que les fonctionnaires ont continué à travailler sur ces dossiers, même si la situation politique ici n'était pas très stable. Mais tout le monde a compris qu'il en allait du prestige du pays.
Prestige of the country. Dans un pays où moins d'1% de la population connaît le français, il a fallu mobiliser toutes les bonnes volontés. 400 étudiants de l'UFAR, l'université française en Arménie, ont été mis à contribution, notamment au village de la francophonie, installé près de la place de l'Opéra, où danseurs, chanteurs, graffeurs se succèdent sur la scène. En t-shirt bleu à l'effigie de l'OIF, Marianne Katarian, étudiante de première année, répond aux questions des visiteurs.
La question qu'on nous a posée, tout le temps on nous pose, c'est quoi la francophonie? Mais ce sont surtout les Arméniens qui ne comprennent pas pourquoi le sommet de la francophonie se passe ici, car ce n'est pas la majorité des Arméniens qui parlent un français.
Laura Ovanissian, professeure de français, espère que les événements organisés autour du sommet de la francophonie contribueront à renforcer la langue de Molière en Arménie.
Je ne veux pas que l'anglais règne. L'anglais, c'est la langue de business, comme ça. Et le français, c'est plus mélodique, belle. Je veux que le français règne, parce que c'est une belle langue. La langue de Charles Aznavour.
Charles Aznavour, dont les chansons résonnent encore souvent dans les rues d'Erevan. Ce soir, une partie du concert Place de la République lui sera dédiée.
Reportage signé Anastasia Becchio. Alors tout est prêt donc pour recevoir les chefs d'État, les délégations qui arrivent petit à petit en ce moment même à Erevan. Avec Christophe Boisbouvier, on va en parler. Un sujet va animer les débats dans les prochaines heures. Christophe, c'est la désignation de la secrétaire générale de l'organisation pour les 2 prochaines années. Ce devrait être Louise Mushikiwabo, la Rwandaise. Mais Christophe, la sortante, Michaël Jean, la Canadienne, ne désarme pas. Elle veut être reconduite, même si elle a perdu ces dernières heures ses principaux soutiens.
En effet, puisque mardi soir, son propre pays, le Canada, l'a laissé tomber, et malgré tout, elle reste candidate. Hier soir, lors d'une brève rencontre, elle a expliqué sa stratégie à son Premier ministre Justin Trudeau, qui a priori l'a avalisée, c'est-à-dire tenir jusqu'au huis clos de demain midi pour que les chefs d'État et de gouvernement lui disent si oui ou non ils sont satisfaits de son bilan. La volonté de Michaël Jean, c'est d'incarner jusqu'au bout les valeurs de démocratie et de droits de l'homme qui sont inscrites dans la charte de l'OIF. C'est une façon pour elle de montrer sa différence avec sa rivale, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, qui va devenir demain la nouvelle reine de la francophonie, mais dont le pays n'est pas un modèle de démocratie et de droits de l'homme.
Et Christophe, qu'est-ce qui a fait basculer le cours des événements ces dernières heures ?
Ce qui a fait basculer le Canada, ce sont, semble-t-il, deux promesses de Paris à Ottawa, d'Emmanuel Macron à Justin Trudeau. La première promesse, c'est que le Canada aura probablement un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU en 2020 ou en 2022. Et la seconde, c'est que l'Arabie saoudite va suspendre sa demande d'adhésion à la francophonie jusqu'au sommet de Tunis de 2020. Et pour le Canada, c'est très important, vu les rapports exécrables entre Ottawa et Riyad et vu les discours du Canada contre la situation des droits de l'homme et des femmes, notamment en Arabie saoudite. Alors, ce début de semaine, l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Paris a écrit une lettre au président d'Arménie qui préside à présent la francophonie. Cela pour lui annoncer que pour l'instant, l'Arabie saoudite ne frappait plus à la porte de l'OIF. Et comme par hasard, quelques heures plus tard, le Canada a retiré son soutien à Michaël Jean.
Christophe, on vous retrouve un petit peu plus tard. C'est ce qui est presque inconscient, psychanalytique, c'est que ce sont deux femmes qui cristallisent l'attention de ce sommet de la francophonie. Les délégations ont tout de même à l'esprit à ça depuis le début, depuis quelques jours. Et dans le studio de RFI, nous avons Flavien Enongwe, l'ambassadeur du Gabon en France, et Bertin Leblanc, qui est porte-parole de Michaël Jean, l'actuel secrétaire général de l'OIF. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Ma première question, elle est pour vous, Bertin Leblanc. Est-ce que Michaël Jean va aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'elle a vu le Premier ministre canadien hier, ici, à Erevan ?
Bien sûr, Michaël Jean l'a annoncé déjà. C'est une femme très combative. Donc, pour nous, le processus doit aller jusqu'au bout. On l'a dit, un consensus, pour nous, doit intervenir après un débat. Ce débat, on espère qu'il aura lieu dans le cadre du sommet. Le sommet commence dans quelques minutes. Donc, Madame Jean a bien sûr l'intention d'aller jusqu'au bout. Effectivement, on a eu un bref entretien hier avec le Premier ministre canadien.
Ça s'est bien passé ?
Ça s'est très bien passé. De part et d'autre, ça a été une discussion très constructive. Et il semblerait qu'on pourra aller jusqu'au bout du processus tel qu'on le demandait.
Vous avez l'impression, Flavien Enongwe, qu'elle est entêtée, cette secrétaire générale de la francophonie, à se maintenir coûte que coûte ?
Je ne saurais le dire. Vous savez, elle est secrétaire générale sortante, elle a un bilan, donc c'est compréhensible qu'elle puisse imaginer le défendre au cours d'un débat. Mais il faut avoir aussi l'intelligence des rapports de force lorsqu'on va à une élection. Et je pense que on est encore à 24 heures des hostilités, donc beaucoup de choses peuvent évoluer. Et je pense que les échanges devront pouvoir continuer. Mais il y a quand même un aspect juridique de la chose. On n'est pas candidat de soi-même, on est présenté par un État. Donc est-ce que d'ici à demain, il y a un État qui va présenter Madame Jean. Là aussi, ça reste une interrogation.
Christophe Bouvier.
Oui, mais justement, Flavien Enongwe, par son entêtement, est-ce que Michaël Jean ne veut pas montrer en creux que sa probable successeuse, Louise Mushikiwabo, ministre du Rwanda, n'est pas la mieux placée pour défendre ses valeurs de démocratie et de droits de l'homme ?
Je ne suis pas sûr que le procès qui est fait au Rwanda sur la question des droits de l'homme soit justifié. Encore moins sur la démocratie.
Mais pourquoi ?
Mais parce que il suffit simplement d'aller à Kigali aujourd'hui et de voir le chemin parcouru depuis le génocide. Entre nous, il y a des situations plus à plaindre dans le monde qu'au Rwanda. Et j'estime, je suis de ceux qui pensent, que le Rwanda a fait un parcours extraordinaire depuis le génocide. De se retrouver aujourd'hui à ce niveau, c'est une diplomatie qui mérite d'être respectée. Et celle qui a incarné cette diplomatie depuis quasiment les 10 dernières années, c'est Mme Louise Mushikiwabo.
Bertin Leblanc, vous êtes d'accord ?
C'est un peu difficile pour moi, dans ma position, de m'exprimer sur ce sujet. Tout ce que je peux répéter, c'est effectivement l'inquiétude qu'on a portée, que la secrétaire générale a portée d'ailleurs tout récemment lors du Conseil permanent de la francophonie, il y a 2 ou 3 jours, vous l'avez entendu, monsieur l'ambassadeur, où on s'est inquiété effectivement, dans un premier temps, on s'est réjoui de la libération d'un certain nombre, nombre important de prisonniers politiques qui étaient dans les geôles à Kigali, entre autres. On a aussi signalé qu'il y avait une nouvelle loi assez restrictive en matière de liberté de presse et entre autres en ce qui concerne les caricaturistes. Nous, c'est notre devoir en tant qu'organisation de rappeler qu'on touche là à des principes fondamentaux en matière de droits humains. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que Madame Jean fait depuis 4 ans, depuis qu'elle est à la tête de la francophonie. Elle va le faire jusqu'à la fin et on espère au-delà. Mais effectivement, ça reste une inquiétude. On n'est pas les seuls à s'inquiéter. Je vous rappelle que Reporters sans frontières a pris très tôt dans le processus de nomination à la francophonie fait et cause et a expliqué assez clairement et a exprimé son inquiétude en matière de droits humains et surtout en ce qui concerne la liberté de la presse.
Amnesty aussi.
Amnesty également. Je vous rappelle que Amnesty et Human Rights Watch sont toujours dans l'impossibilité de travailler au Rwanda. Donc ça reste un signe inquiétant pour nous de voir cette situation qui perdure. Et la libération des prisonniers a été de toute évidence il faut absolument relier cette libération à cette course.
Est-ce que Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, c'est la fin de la francophonie politique incarnée par Abdou Diouf et Michaël Jean ?
Ça met effectivement la maison dans une posture difficile. Le malaise est évident actuellement dans cette perspective-là. Il ne faut pas se le cacher, vous le sentez tous à Erevan. Il y a ce doute qui plane effectivement sur l'aspect politique de la francophonie.
Flavien Enongwe, justement, est-ce que les membres de la francophonie auront à cœur de faire vivre cette organisation comme une organisation aussi politique ?
La question politique est une question parmi tant d'autres. Mais de lier, et ça je reviendrai là-dessus, c'est une erreur politique à ne pas commettre, d'imaginer que l'agenda politique de Rwanda est arrimé aux enjeux électoraux. Non. Avant cette libération et qui intervient à la suite des demandes des intéressés. Vous avez évoqué le discours de Mme Jean, mais il y a eu la réponse de l'ambassadeur de Rwanda pour prouver qu'il y a eu des libérations massives il y a une dizaine d'années. Et ensuite, il y en a eu encore il y a 5 ans. Il n'y avait pas de mandat, il n'y avait pas encore de candidature de Rwanda en ce moment-là à l'OIF. Dernier aspect que je vais devoir évoquer, il n'y a pas des milliers, parce qu'il s'agit des milliers de gens qui ont été libérés. Vous pouvez nous dire qu'ils sont politiques ? Il s'agit bien des gens qui ont été accusés et condamnés d'avoir participé, pour nombre d'entre eux, au génocide. Et ça a été des libérations à la demande. Il se trouve que parmi il y a des acteurs politiques. Mais sont-ils incarcérés pour des opinions politiques ? Bon, là, chacun peut avoir son idée, mais d'imaginer qu'il s'agissait d'un coup politique parce qu'il fallait obtenir l'assentiment de pays pour être élu, je ne pense pas. Et le Rwanda, pour le peu que je connaisse, c'est pas un pays qui cède aux pressions d'où qu'elles viennent.
Flavien Enongwe, ambassadeur du Gabon en France, et Bertin Leblanc, porte-parole de Michaël Jean, l'actuel secrétaire général de l'OIF. Merci à tous les deux. Alors, vous l'entendez, la perspective de voir Louise Mushikiwabo devenir secrétaire général de la francophonie fait débat. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent. On va leur donner la parole dans un instant. En attendant, ici à Erevan, il va être 10h30. C'est l'heure de la photo officielle. On a vu passer, entre autres, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Sénégalais Macky Sall, et bien sûr, sur le Rwandais, Paul Kagame, sur lesquels tous les regards seront fixés. On va en reparler avec vous, Christophe Boisbouvier, avec nos invités également. Nous allons être au téléphone un petit peu plus tard avec l'ancien secrétaire à la coopération, Pierre-André Widzer, également avec Hugo Sada, ancien conseiller d'Abdou Diouf. Ils seront en ligne depuis Paris pour commenter ce sommet international de la francophonie, 17e du nom, qui se tient à Erevan, en Arménie.
Édition spéciale sur RFI.
Et je vous le disais, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de la perspective de voir Louise Mushikiwabo prendre la tête de la francophonie. Je vous propose d'écouter Lewis Mujay, les chercheurs sur la région des Grands Lacs pour Human Rights Watch. Le soutien des États membres de l'OIF à la candidate rwandaise est, selon lui, en contradiction avec les valeurs de la francophonie.
Au Rwanda, on peut dire qu'il y a de grands problèmes avec la démocratie, avec la justice. Selon New Human Rights Watch, les élections de 2017 montrent qu'il n'y a pas d'espace au Rwanda pour les opposants politiques. On félicite le fait qu'il y a un Africain encore à la tête de la francophonie, mais pour nous, c'est un peu ironique et c'est un peu contradictoire, vu que la francophonie dit que ses principes sont très importants. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui est représentant d'un État rwandais qui est tout simplement contre la démocratie.
Est-ce que vous pensez que ça peut ternir l'image de l'OIF?
C'est une crainte pour nous à Human Rights Watch. On voit la francophonie comme une moyenne pour plaidoyer très efficace et on craint que cette nouvelle décision peut minimiser certains aspects de la francophonie qui, à l'époque, a eu beaucoup d'impact.
Et puis, au Rwanda même, ce choix de Louise Mushikiwabo pose question, en tout cas à Laurent Munyandilikirwa. C'est l'ancien président d'une organisation rwandaise de défense des droits de l'homme, la LIPRODOR. Il considère que cette candidature est pleine d'ambiguïté.
Ce n'est pas clair parce qu'on parle même de la contribution du Rwanda par rapport aux cotisations à la francophonie, ça ne marche pas bien. Et puis, il n'y a que la charte de la francophonie au Rwanda par rapport à la démocratie, elle n'est pas respectée. Son image n'est pas bonne. Par rapport aux droits de l'homme, à l'ouverture de l'espace politique, de l'espace de la société civile. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser par rapport à sa candidature. Il y a des intérêts en jeu que le gouvernement rwandais voudrait défendre et c'est l'occasion d'entrer dans la francophonie et d'influencer à partir de la francophonie. C'est une candidature d'opportunité. Bon, il y a des intérêts en France et il y a aussi des intérêts au niveau international que le Rwanda voulait défendre, notamment son image par rapport à la francophonie, qu'ils ont au départ rejeté en supprimant par exemple le français dans l'éducation. Avant c'était une langue de communication très directe, maintenant c'est une langue secondaire par rapport à l'anglais.
Les réactions que vous venez d'entendre, un dossier préparé par Mao de Butler. On va poursuivre le débat dans un instant avec nos invités en ligne de Paris, Pierre-André Widzer, ancien ministre français de la coopération et de la francophonie, et Hugo Sada, l'ancien conseiller d'Abdou Diouf, ancien délégué à la paix, aux droits de l'homme et à la démocratie de l'OIF, ancien journaliste également et aujourd'hui chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Pour l'instant, il est 8h33 à Paris, 10h33 ici à Erevan. C'est l'heure de la revue de presse de Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et dans les journaux français, comme dans ceux du continent africain, c'est le duel entre Michaël Jean et Louise Mushikiwabo qui retient l'attention ce matin.
Oui, les jeux semblent faits, mais le débat se poursuit. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, devrait donc succéder à l'actuelle titulaire de poste, la Canadienne d'origine haïtienne, Michaël Jean. En effet, s'exclame la Croix, que de grincements de dents depuis qu'Emmanuel Macron et son homologue rwandais Paul Kagame ont annoncé en mai dernier leur soutien à la candidature rwandaise adoubée début juillet par l'Union africaine, avec, semble-t-il, l'efficace entremise du roi du Maroc, Mohamed VI. Tout d'abord, pointe le quotidien catholique, cette annonce surprise s'est faite depuis l'Élysée sans concertation au sein de l'organisation. Ensuite, la France est suspectée d'instrumentaliser l'OIF. Michaël Jean est victime de la géopolitique française. Le président Macron veut se tourner
vers les grands États anglophones africains. Et le Rwanda est une clé pour accéder à ce monde, estime le politologue québécois Jocelyn Coulon, interrogé par La Croix. Selon lui, en échange de son ralliement, le Canada escompte un soutien appuyé de la France pour être élu au Conseil de sécurité de l'ONU en 2020. Enfin et surtout, s'interroge La Croix, y a-t-il plus mauvais exemple d'un pays, même de défendre la langue française et les valeurs de la francophonie, que le Rwanda? Certes, l'OIF défend le plurilinguisme, mais Kigali a vertement tourné le dos aux Français en 2008, le remplaçant par l'anglais comme langue obligatoire à l'école et a rejoint l'année suivante les pays anglophones du Commonwealth.
Et pour sa part, Paris avance ses arguments, hein, rapporte Le Monde.
Oui, il est normal que ce poste revienne à une Africaine et l'OIF élit non pas un pays mais une personne, se justifie l'Élysée, arguant de l'expérience diplomatique de Louise Mushikiwabo et soulignant que ce choix illustre la position du président français qui veut défendre le français sans l'opposer aux autres langues. En filigrane, relève Le Monde, il y a surtout la volonté d'Emmanuel Macron de faire un geste fort pour fermer le lourd et douloureux contentieux avec le Rwanda qui accuse les autorités françaises d'avoir joué un rôle dans le génocide de 1994.
Une Rwandaise à la tête de l'OIF. Le débat est vif aussi, Frédéric, dans la presse du continent.
Oui, le pays au Burkina n'est pas d'accord, et ce pour deux raisons. Primo, Louise Mushikiwabo provient d'un pays qui a tourné le dos aux Français. Secondo, poursuit le pays, cette candidature défendue par la France est celle d'un pays qui ne se gêne même plus d'essuyer ses pieds sur le respect des libertés et des droits de l'homme, des valeurs pourtant défendues par la francophonie et la France, patrie des droits de l'homme et des libertés. Quelle aberration, s'exclame encore le journal burkinabé. Qu'importe, estime pour sa part Jeune Afrique, qu'importe, l'Afrique représente plus de la moitié des membres de l'OIF et la majorité des francophones. L'Afrique est donc l'avenir de la francophonie. C'est une évidence pour l'hebdomadaire panafricain. Le poste de secrétaire général doit revenir à un Africain.
Revue de presse signée depuis Paris en direct par Frédéric Couteau. On retourne à Erevan. Christophe, ce matin vous avez jeté un œil à l'interview que Louise Mushikiwabo donne au journal Le Monde dans la matinale. Ça vient d'être publié sur le site internet.
Oui, alors à la question « Ne risque-t-on pas de vous reprocher d'avoir occupé des fonctions majeures dans un gouvernement dans lequel les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés ?» Elle répond « Les droits humains ne sont pas réservés à quelques pays et pas à d'autres. S'il fallait dans chaque pays membre évaluer la question des droits humains, je pense que le Rwanda serait bien placé. On peut reprocher à chaque pays quelque chose sur la question des libertés, donc réponse sur les droits de l'homme. Et puis à la question, va-t-il y avoir un rapprochement entre Kigali et Paris? La relation reste compliquée, mais il n'y a pas d'ennemi perpétuel. Les questions liées à l'histoire prennent du temps. Il en faut pour recréer de la confiance entre la France et le Rwanda. Pour nous, le président Macron est un homme qui n'est pas lié par l'histoire négative de la France au Rwanda. Il a aussi une approche très pragmatique, ce qui est aussi le cas de Paul Kagame. Louise Mushikiwabo laisse entendre qu'il pourrait y avoir bientôt un ambassadeur de France à Kigali.
Et à l'heure des réseaux sociaux, tous ces débats de la francophonie parcourent le monde, de Paris, on l'a entendu, à Erevan, à Québec, où nous retrouvons notre correspondante Pascale Guéricola. Pascal, dirigeant ou anonyme, tous commentent cette actualité de l'OIF.
Le Premier ministre québécois François Legault, qui prend bientôt ses fonctions, a été le premier du côté du Canada à retirer son appui à Michaël Jean. Lui, qui prône une meilleure utilisation des fonds publics, a déclaré sur Twitter vouloir laisser place à un nouveau style de gestion. Une allusion en fait à peine voilée aux somptueuses dépenses de la secrétaire générale de l'OIF. Manifestement, plusieurs autres internautes canadiens n'ont pas digéré les 350 000 euros dépensés en travaux, ni la hausse de 40% de son budget voyage. Plusieurs internautes canadiens approuvent par conséquent l'arrivée d'une autre candidate que Michaël Jean. Il se désole cependant du même souffle que cette dernière. Louise Mushikiwabo vient d'un pays comme le Rwanda qui a abandonné l'usage du français à l'école il y a déjà plusieurs années. Aux yeux de plusieurs, la francophonie mérite mieux que la numéro 2 d'un régime totalitaire, soutenu en plus par la France. Encore une fois, explique un internaute sur un site africain, ce pays utilise la francophonie pour défendre ses propres intérêts politiques et économiques, et non pour promouvoir le français.
Pascale Guéricola à Québec, correspondante de Radio France Internationale. Et nous sommes maintenant en direct avec Pierre-André Wiltzer depuis Paris, ancien ministre délégué à la coopération et à la francophonie du gouvernement Raffarin entre 2002 et 2004, avec Hugo Sada, ancien conseiller politique d'Abdou Diouf. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous depuis Paris. Comment est-ce que vous réagissez à tout ce que vous avez entendu ces dernières minutes? La presse française qui s'inquiète, les réseaux sociaux qui s'enflamment. Hugo Sada, vous pensez que ce sont des critiques justifiées à l'encontre de Louise Mushikiwabo et du Rwanda?
Écoutez, c'est normal qu'il y ait une controverse polémique autour de la rivalité entre les deux candidates. Mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de demain, Louise Mushikiwabo sera secrétaire générale de la francophonie. Elle sera plus ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Comme ses prédécesseurs, Boutros Ghali et Abdou Diouf, elle va s'occuper des affaires de la francophonie, elle va plus s'occuper des affaires du Rwanda. Ses deux prédécesseurs l'ont fait, et très clairement. Boutros Ghali ne s'est jamais occupé des affaires égyptiennes ou des problèmes des droits de l'homme en Égypte. Abdou Diouf ne s'est jamais occupé de la politique politicienne sénégalaise pendant son mandat. Donc voilà, maintenant Louise Mushikiwabo, en étant élue secrétaire générale, prend des engagements vis-à-vis des textes, des engagements, des valeurs de la francophonie. C'est ça son défi. On ne peut pas lui faire aujourd'hui un procès d'intention. On va voir maintenant comment elle va prendre à corps toutes les missions qui vont être de sa responsabilité. Le problème, c'est que l'élection va avoir lieu demain. Je crois que, très sincèrement, cette histoire de rivalité entre les deux candidates, elle est maintenant dépassée. Avec le retrait très clair du Canada et du Québec, de soutien de la candidature de Michaël Jean, on est passé maintenant à une étape suivante, et les vrais problèmes, les problèmes de fond, c'est qu'est-ce que les États et gouvernements membres de la francophonie vont maintenant fixé comme ligne, comme politique de la francophonie. Il y a beaucoup de questions qui se posent et des questions qu'on n'a pas posées parce que trop a été cristallisé sur la rivalité entre les deux femmes.
Hugo Sada, on l'entend, un ancien conseiller politique d'Abdou Diouf. Pierre-André Wiltzer, vous êtes ancien ministre délégué à la francophonie avec d'autres anciens ministres français. Vous avez signé une tribune dans le journal Le Monde pour dire que vous aviez des inquiétudes justement au sujet de ces valeurs de la francophonie que doit défendre la secrétaire générale. Est-ce que vous la regrettez aujourd'hui, cette tribune? Elle va être désignée Louise Mushikiwabo, selon toute vraisemblance?
Il n'y a pas de raison de la regretter, parce que les motifs restent tout à fait valables. Moi, je trouve très regrettable que cette affaire de nomination de la secrétaire générale de l'OIF soit en fait prise en otage par toutes sortes de considérations, de manœuvres diplomatiques assez opaques. On vient d'entendre effectivement des échanges entre pays pour savoir si le Canada pourra obtenir un siège temporaire au Conseil de sécurité, etc. Ça n'a rien à voir avec l'OIF. Et je trouve très dommage qu'à cause de cette bataille de dames à laquelle on assiste, les vrais problèmes de l'OIF ne soient pas réglés. Et c'est ce que nous avons voulu dire aussi dans notre tribune avec plusieurs de mes anciens collègues. C'est qu'il y a des sujets majeurs pour la francophonie, des priorités à redéfinir pour l'organisation de la francophonie. Il faut se préoccuper aussi de voir comment la croissance du nombre des adhérents des pays membres ou des pays associés est devenue un problème, parce que comment trouver un accord sur des priorités alors qu'il y a maintenant 84 pays dont beaucoup n'ont même pas de lien très direct avec la francophonie. Bon, tout ça, ce sont des sujets qui sont malheureusement occultés par cette opération qui s'est passée de manière assez opaque, il faut dire, de désignation de la secrétaire générale.
Pierre-André Wiltzer, ancien ministre français de la francophonie. Une question de Christophe Boisbouvier.
Oui, Hugo Sada, quand vous dites que Louise Mushikiwabo ne sera plus ministre rwandaise demain, il n'en reste pas moins qu'elle est rwandaise et que pendant 9 ans, elle a porté donc la politique de Paul Kagame. Est-ce qu'elle sera la mieux placée demain pour parler démocratie et droits de l'homme, comme l'a fait par exemple Abdou Diouf, dont vous étiez le conseiller politique et qui s'est battu pour ces deux valeurs?
Écoutez, je répète qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. Louise Mushikiwabo va être secrétaire générale d'une organisation intergouvernementale qui a des textes, des engagements. Elle sait maintenant assumer les responsabilités qui vont lui être confiées demain, on va bien voir comment elle va s'engager à défendre les engagements de la francophonie.
Non, mais la question est simple. Si demain elle demande à tel ou tel État de respecter les règles démocratiques, est-ce que cet État ne risque pas de lui répondre « Madame la secrétaire générale, vous n'êtes pas la mieux placée pour me donner des leçons ?»
Mais c'est une organisation intergouvernementale avec 80 États membres qui fonctionne. Elle met en œuvre une politique et un cadre qui a déjà été défini par la déclaration de Bamako, la déclaration de Saint-Boniface, l'action déjà très importante qui est déployée par la francophonie sur la gouvernance, sur le développement institutionnel des processus de démocratisation. Ne faisons pas de procès d'intention et voyons maintenant comment Louise Mushikiwabo va prendre de la distance de ses anciennes fonctions et assumer ses nouvelles fonctions. Mais je suis d'accord avec Pierre-André Wilser pour dire que ça y est, maintenant on a dépassé ce stade. Et le vrai problème maintenant, c'est de savoir quoi faire de cette francophonie. Elle a très peu d'argent, elle manque beaucoup de cohérence, elle fait beaucoup de saupoudrage, qui nuit beaucoup à l'efficacité de son action. Maintenant, il y a un gros travail de restructuration, de recadrage politique, et c'est ça l'enjeu majeur. Si on continue, puis il y a un choix à faire entre garder les deux jambes de la francophonie, c'est-à-dire d'une part la diversité culturelle et linguistique et la défense du français, et d'autre part la promotion de la démocratie et des droits humains, le fonctionnement de la francophonie change maintenant de logique, si elle ne marche plus sur ses deux jambes, mais qu'elle se concentre, comme certains le souhaiteraient, beaucoup plus sur une action culturelle et linguistique, avec le peu d'argent qu'elle a, on va revenir 20 ans en arrière.
On va en parler, Hugo Sada, on va en parler de cet avenir de la francophonie. Et tout de même, j'ai une question pour Pierre-André Wilser sur ce duel de dames, comme vous dites. Vous avez été ministre, vous connaissez la diplomatie, la politique. Est-ce que l'entêtement de Michaël Jean, qui veut aujourd'hui encore maintenir sa candidature, qui est prête à aller jusqu'au huis clos des chefs d'État pour défendre son bilan, est-ce que cette attitude, c'est une attitude qui finalement ne l'a pas desservie?
Je ne sais pas. Je pense qu'il n'est pas anormal qu'elle souhaite présenter et défendre son bilan. Elle a été 4 ans secrétaire générale. Je trouve qu'il serait pas très convenable, honnêtement, qu'elle soit obligée de partir là sans même pouvoir se justifier. Bon, après ça, les décisions seront prises. D'ailleurs, le problème, c'est quand même qu'au sein de l'OIF, l'absence de véritables règles de désignation, on parle d'élection, mais en fait, ce sont des négociations de couloirs qui finissent par désigner les secrétaires généraux. Ça n'est pas, à mon avis, une très bonne formule. Mais enfin, bon, dans l'immédiat, moi, je considère, par différence avec ce que M. Hugo Sada vient de dire, que le choix d'une personnalité politique proposée par le Rwanda pose un vrai problème de deux manières. Premièrement, le Rwanda ne s'est pas distingué par son soutien à la francophonie et à la langue française. On l'a dit tout à l'heure, il a quand même retiré sa place aux Français dans l'enseignement au Rwanda. Et d'autre part, on entend de tous côtés des indications assez claires sur le fait que le fonctionnement de la démocratie au Rwanda, le respect des libertés individuelles et politiques n'est pas exemplaire. Donc le message de désignation d'une personnalité rwandaise, de ce point de vue, est un vrai problème.
On va parler de l'avenir maintenant, de la francophonie.
Édition spéciale sur RFI.
Vous l'évoquiez, hein, Hugo Sada, Pierre-André Witzer, tous les deux nos invités ce matin en ligne depuis Paris. Que va-t-il advenir de cette organisation internationale de la francophonie lorsque, selon toute vraisemblance, Louise Mushikiwabo va en devenir la secrétaire générale? Comment va fonctionner cette institution avec un budget, on le sait, très réduit, Pierre-André Witzer?
Oui, c'est un vrai problème. Je crois que, si vous voulez, la francophonie aujourd'hui, l'organisation de la francophonie est devenue une organisation très lourde. On peut dire qu'elle est frappée un peu d'obésité avec ses 84 membres, dont beaucoup, effectivement, sont peu concernés par ce qui est le cœur de la francophonie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la langue française et d'ailleurs des valeurs qu'elle porte. Je pense qu'il est donc assez important d'avoir une réflexion au niveau de l'organisation et des gouvernements qui en font partie pour essayer de refixer des priorités et de décider si les moyens dont dispose la francophonie en termes de budget et en termes de ressources humaines aussi sont adaptés à ces priorités. Par exemple, quand on voit que la francophonie s'est occupée progressivement de domaines nouveaux, la lutte contre le réchauffement climatique, les questions de développement économique, bon, ce sont des sujets intéressants sur le plan international, mais ça n'est pas le métier principal de la francophonie. Donc,
Hugo Sada, peut-être pouvez-vous répondre à Pierre-André Witzer et aussi répondre à cette question toute simple. Vous qui avez porté pour le président Abdou Diouf une francophonie politique, est-ce que vous ne craignez pas que demain, avec un Emmanuel Macron qui ne veut pas donner de leçons sur les droits de l'homme, avec une Louise Mushikiwabo qui ne veut pas d'OIF punitive, la francophonie politique ne disparaisse pour ne devenir plus qu'une francophonie culturelle?
Pierre-André Witzer a tout à fait raison de dire que la dispersion des missions de la francophonie a été catastrophique parce que la francophonie n'a pas les moyens et parce qu'il y a d'autres organisations dans le système multilatéral qui s'occupent très bien de toutes ces grandes questions. Deuxièmement, il faut aussi réfléchir sur l'élargissement. Aujourd'hui, avec 80 pays membres, la francophonie ne sait plus très bien ce qu'elle est et qui elle est. Elle n'est pas une ONU bis, elle est une organisation difficile à culturelle et linguistique difficile à définir.
Il nous reste une minute, clair, hein, une minute.
Ce qui est clair, et j'insiste là-dessus, c'est que la francophonie, toutes ces dernières années, a réussi à s'imposer dans la communauté internationale parce que même les sujets linguistiques, les sujets culturels sont des sujets politiques, des sujets qui mettent en cause l'identité des peuples et que pour défendre la langue et pour défendre les cultures, il faut avoir une influence politique, donc il faut une francophonie politique. Sinon, on revient 20 ans en arrière dans une petite agence de coopération culturelle sans moyens.
Merci. Hugo Sada, ancien conseiller politique d'Abdou Diouf. Merci également à vous, Pierre-André Witzer, ancien ministre délégué à la coopération et à la francophonie, en direct depuis Paris. Alors, on l'a compris, hein, si le débat est focalisé autour de ces deux femmes, autour du nom de la prochaine secrétaire générale de l'organisation, la francophonie, elle continue à travailler. Bonjour Véronique Tavo.
Bonjour Juliette.
Vous êtes directrice de communication de l'OIF. Alors, il y a tout ce débat politique hein, qui va beaucoup animer les discussions pendant deux jours ici à Erevan. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même un sommet qui travaille. Et qui travaille sur quoi ?
Alors, il y a un sommet qui travaille, mais il y a aussi un sommet qui a été préparé déjà depuis un certain temps. Parce qu'un sommet, c'est pas juste un sommet, c'est aussi des stratégies, c'est aussi des politiques qui vont être adoptées, des résolutions qui vont être adoptées et qui sont. Alors on n'est pas l'ONU, hein, on n'est pas le Conseil de sécurité, elles sont pas contraignantes, mais à partir du moment où elles sont adoptées, normalement, il y a un engagement des États membres de les appliquer. Donc il y a eu une stratégie numérique qui a été adoptée il y a quelques années, une stratégie jeunesse également. Et là, ici, à Yerevan, il va y avoir la stratégie femmes-hommes, qui est très importante parce que d'abord c'est la première fois, parce que on espère que les États membres vont appliquer, c'est-à-dire plus de respect, plus d'autonomisation, plus d'entrepreneuriat des femmes et des filles, et que donc dans tout l'espace francophone, qui a aujourd'hui maintenant qui compte 300 millions de locuteurs, cette stratégie donc va permettre d'avancer sur des questions essentielles de reconnaissance des droits des femmes. Et c'est pas parce qu'on est en ce moment dans une question un petit peu de violence sexuelle et autres que cette stratégie a été développée. C'est parce que juste il était temps qu'elle soit développée et appliquée.
Quand vous dites c'est pas contraignant, il y a quand même un bilan qui est tiré. La stratégie numérique, par exemple, vous regardez un petit peu comment c'est appliqué.
Absolument. Nos États membres mettent en place un certain nombre de appliquent en fait ces stratégies. Nous, on suit, on les accompagne parce que c'est notre rôle. On est là également pour financer dans certains pays qui en ont besoin des start-up par exemple ou dans les écoles mettre en place donc cette stratégie numérique qui fonctionne très très bien. Et on va faire la même chose avec la stratégie femmes-hommes.
Véronique Tavo, une directrice de la communication de l'OIF. Alors, vous savez que RFI, France Média Monde sont également totalement mobilisés pour cet événement. Bonjour Cécile Mégy.
Bonjour Juliette.
Cécile, vous êtes la directrice de RFI. Il y a beaucoup d'événements à retrouver sur nos antennes.
Et oui, et vous en faites partie hein, déjà depuis hier. Un très imposant dispositif pour couvrir ce sommet de la francophonie. Alors, la francophonie, on en parle à longueur d'antenne, j'allais dire, sur RFI, en français, mais aussi dans l'ensemble de nos 13 langues étrangères. Autour d'un sommet, bien sûr, beaucoup de choses se focalisent. Le dispositif est imposant. Ici à Erevan, des équipes nombreuses, techniques, vidéastes, les journalistes en français, un envoyé spécial de la rédaction roumaine, une journaliste de la rédaction russe, et puis bien sûr les journalistes de la rédaction internet. Vous pouvez depuis hier et depuis ce matin, maintenant au moment de ce focus très politique du sommet, suivre l'ensemble des événements sur nos antennes, matin et soir jusqu'à samedi. Vous serez là, Juliette, pour accompagner les auditeurs. Igor Gauquelin, reporter de la rédaction internet, assure un suivi minute par minute, en direct, en continu, des différentes séquences. Et puis, nous avons aussi mis l'accent sur le multilinguisme, parce que la francophonie, c'est le français, mais le français dialogue avec les autres langues. Au sein de la francophonie, l'Arménie, le pays où nous sommes aujourd'hui, est un pays très francophile, assez peu francophone, où le français cherche à se développer à nouveau. Et nous avons innové cette année grâce à notre consoeur Elena Gabrielian de la rédaction russe, qui a créé un programme en arménien qui est diffusé sur notre FM ici à Erevan sur 102.4, diffusé deux fois par jour pendant la durée du sommet, et qui fait le lien entre le français et l'arménien, les français et l'Arménie. Voilà. Et on lance un nouveau magazine de vive voix, le magazine de la francophonie et de la langue française sur
avec
RFI.
Pascal Paradou. Merci Cécile Mégy. Aujourd'hui, nous restons mobilisés, effectivement, et nous allons suivre particulièrement les discours d'Emmanuel Macron, le français, de Justin Trudeau, le canadien, et de Michaël Jean, la secrétaire générale sortante. RFI Matin, cette édition spéciale s'achève à la rédaction en chef. Il y avait Jean-Pierre Monzin. Toutes nos équipes techniques, Philippe Nadel, Boris Vichit, Benoît Raymond et Romain Ferré. Nous, on se retrouve en direct d'Erevan à 16h10, temps universel, pour un décryptage Arménie francophone, Arménie francophile. Dans un instant, c'est le journal sur RFI et à suivre à 8h10, temps universel. Vous avez rendez-vous avec toute l'équipe d'Appel sur Actualité, Juan Gomez, pour une émission spéciale consacrée à ce 17e sommet de la francophonie. Bonne journée à tous.